Voilà, donc nous allons continuer notre parcours dans des interventions un peu plus courtes cet après-midi. La première de Christelle Apourchaud, la neurophénoménologie en pratique, problèmes et enjeux. Voilà, je ne me suis pas trompé sur le titre, c'est bien celui-là, qui est indiqué. Christelle Apourchaud a déjà eu l'occasion d'intervenir, de participer, d'intervenir dans notre séminaire. En 2012, elle avait soutenu à Paris 4 une thèse intitulée « Le libre arbitre au risque des neurosciences, l'apport d'une neurophénoménologie de l'attention ». Vous voyez, on est directement au cœur de notre sujet. Et sa thèse a été éditée sous le titre « Un nouveau libre arbitre » aux éditions du CNRS, ouvrage que nous avions eu l'occasion du reste de lire et de travailler ensemble. Donc, ceux qui ont participé au séminaire sont déjà familiers des thèses de Christelle, mais les autres vont en profiter, et nous aussi du reste. Continuons à en profiter. Donc pour 35 minutes, merci.
Et bonjour à tous. Je voudrais remercier d'abord François Heuvet et Eric Charmetan de m'avoir invité aujourd'hui. Donc mon parcours a débuté avec une formation de philosophie, mais je me suis confrontée également à l'occasion de mon post-doctorat aux méthodes scientifiques, puisque j'ai intégré un laboratoire de neurosciences. Et c'est un petit peu ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est-à-dire je vais m'éloigner un petit peu des considérations philosophiques, théoriques, et vous exposer des recherches un petit peu plus pragmatiques, donc empiriques, aujourd'hui. Et une méthodologie notamment qui s'appelle la neurophénoménologie, qui est une méthodologie spécifique, même si encore minoritaire, dans la recherche en neurosciences, c'est-à-dire la méthodologie qui est issue des idées de Francisco Varela, à savoir l'idée de lier les données issues des neurosciences, les données biologiques, neuronales, à des données phénoménologiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui qualitatives, ou en première personne, mais à la différence d'autres types de recueils de données qualitatives qui sont très courantes aujourd'hui dans les laboratoires, il s'agit non pas d'utiliser des questionnaires, tout simplement, mais d'effectuer des entretiens très détaillés avec les sujets qui passent les expériences en laboratoire. Donc mon exposé se constitue de trois parties. D'abord, je vais passer beaucoup de temps à vous exposer des exemples d'études neurophénoménologiques avec deux articles qui constituent des articles paradigmatiques, en fait, qui vous montrent précisément la démarche neurophénoménologique. En deuxième partie, je vais vous énoncer les difficultés rencontrées par cette méthode et ce pourquoi elle n'est pas si répandue que ça. Et en troisième partie, les enjeux et les pistes pour le développement futur de cette démarche. Donc, comme je vous le disais, cette démarche est née d'une conception méthodologique diffusée notamment par Francisco Varela à la fin des années 90. Donc, c'est un axe de recherche dans lequel l'expérience vécue et sa base biologique naturelle sont liées par des contraintes mutuelles fournies par leurs descriptions respectives. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas de recueillir d'un côté des données en première personne, de l'autre côté des données en troisième personne ou objective dans le laboratoire, mais ces deux types de données se contraignent mutuellement. Les données en première personne vont structurer la façon dont on va interpréter les résultats biologiques et inversement. Dites-moi si ça va trop vite ou si vous avez des questions, il n'y a pas de problème. Donc l'idée, c'est de se situer dans une perspective interrelationnelle, c'est-à-dire qu'on évacue la dualité sujet-objet au profit de l'étude de leur corrélation fondamentale. Par exemple, Jean-Baptiste Lecuy disait tout à l'heure qu'on part nécessairement d'un point de vue subjectif pour développer une théorie même philosophique. Et c'est ce caractère subjectif de toute démarche scientifique qui va être prise en compte par, par Francesco Varela, qui va être élucidée. Donc les données en première et en troisième personne se contraignent mutuellement. Et c'est une démarche qui a été mise en application notamment par Antoine Lutz et Jean-Philippe Lachaud dans un article sur, sur la perception d'une forme en trois dimensions. Donc vous connaissez un petit peu ce phénomène avec les Magic Eye, je ne sais pas, les livres d'enfants dans lesquels on a une image en 3D qui ressort moyennant une certaine attention à cette image. C'est un petit peu ce type d'expérience qu'ils ont utilisé en demandant au sujet après coup d'expliciter l'état attentionnel dans lequel ils étaient au moment où la forme a surgi de l'image. C'est-à-dire que de ces entretiens phénoménologiques ont été identifiées trois catégories. Une catégorie de surprise, c'est-à-dire que les personnes ne s'attendaient pas du tout à voir émerger cette image. Une catégorie où les sujets se sentaient vraiment préparés à percevoir cette image. Et une catégorie un peu intermédiaire, donc fragmentée, où il y a eu une phase où le sujet se sentait préparé, mais également une phase où il y a eu un phénomène de surprise. Je vais développer cet article ensuite. Je vous donne tout de suite la deuxième référence, qui est l'article de Claire Petit-Mangin sur l'anticipation des crises d'épilepsie. Donc ça, c'est une autre étude paradigmatique de cette méthodologie qui a permis de prendre en compte davantage de données cérébrales au vu des entretiens phénoménologiques qui ont été menés. Je vais développer cette expérience par la suite. Donc je reviens sur l'étude d'Antoine Lutz et Jean-Philippe Lachaud sur la perception visuelle d'un objet 3D. Donc les sujets ont été entraînés parce qu'une idée importante de la démarche phénoménologique, c'est que les entretiens, les descriptions phénoménologiques qu'on peut recueillir nécessitent quand même un espèce d'entraînement pour parvenir à description très détaillée de son expérience vécue. C'est-à-dire que un sujet lambda ne peut pas forcément arriver à des descriptions très précises, mais par un entraînement, la description sera de plus en plus précise. Donc là, il faut quand même répéter la tâche expérimentale un certain nombre de fois afin que les sujets puissent petit à petit identifier dans leur vécu le type d'état attentionnel dans lequel ils sont. Ensuite, les patterns d'activité cérébrale ont été analysés en fonction des trois catégories phénoménologiques dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui ont été définies a posteriori sur la base des descriptions des sujets, en fonction du degré de préparation et la qualité de leur perception. Donc je disais tout à l'heure préparation stable, préparation fragmentée ou manque de préparation, c'est-à-dire l'effet de surprise. Alors, l'hypothèse qu'Antoine Lutz, Jean-Philippe Lachaud ont évoquée, c'est que les contextes cognitifs, à savoir l'attention, la vigilance, les attentes et l'anticipation, se traduisent par une signature neuronale dynamique distincte avant la stimulation visuelle. Et ces signatures neuronales conditionnent la réponse comportementale au stimulus visuel. Donc, ils ont utilisé les descriptions phénoménologiques pour regarder à quel type d'activation neuronale elle correspondait et voir si ces activités cérébrales préalables à la présentation de l'image avaient une influence sur l'effet que l'image suscitait ensuite. Donc les résultats de cette étude ont permis de montrer que le temps de réaction est corrélé au degré de préparation, que les synchronies locales et longues distances se produisent à différentes fréquences avant le stimulus en fonction du degré de préparation. Donc il y avait bien une corrélation entre les données phénoménologiques et neuronales, et que le déploiement de l'attention correspondant à la stratégie de préparation est caractérisé par une augmentation des rythmes rapides et une atténuation des rythmes lents. Alors là, je vous laisserai lire l'article dans son intégralité pour avoir le détail des résultats scientifiques. Et enfin, que les différences individuelles restent stables au cours du temps, c'est-à-dire qu'elles ne constituent pas du bruit. Donc, dans cette expérience, on a une première mise en pratique de la méthodologie neurophénoménologique, c'est-à-dire que on ne se contente pas de recueillir les données cérébrales, d'utiliser des questionnaires, mais à la fois on recueille une description phénoménologique très précise du vécu des sujets, et en plus, ces données phénoménologiques vont jeter une lumière nouvelle sur les résultats et l'interprétation des résultats neuronaux. Donc les descriptions phénoménologiques permettent d'analyser l'activité cérébrale, et les données cérébrales et comportementales, notamment les temps de réaction, ont confirmé en retour la validité des descriptions phénoménologiques. Donc je vais passer à une deuxième étude neurophénoménologique, celle de Claire Petit-Mangin sur les crises d'épilepsie, et notamment l'étude des phases précritiques chez les patients épileptiques. Donc les signes, ce qu'on appelle les prodromes, les signes avant-coureurs d'une crise d'épilepsie. Il s'agissait d'établir des corrélations entre la dynamique de l'activité cérébrale et la dynamique de l'expérience vécue, en utilisant des modèles non linéaires. Donc, ce qu'il était courant de faire pour étudier les crises d'épilepsie auparavant, c'était d'étudier les quelques minutes qui précèdent la crise et de voir ce qui se passe dans le fonctionnement cérébral. On a pu voir qu'il y avait une dispersion de phase, une perte de synchronie autour du foyer épileptique, et ensuite une hypersynchronisation. Ce que la méthode phénoménologique a permis d'ajouter à cette découverte, alors je vais passer à ça plus tard, ce que la méthode phénoménologique a permis d'ajouter, c'est que dans les entretiens phénoménologiques, les sujets évoquaient des prodromes, donc des signes avant-coureurs de la crise, jusqu'à 24 heures avant la crise elle-même. Donc les neuroscientifiques ne se sont pas basés uniquement sur les quelques minutes qui précédaient la crise, mais ont étudié ces patients jusqu'à une journée avant la crise et ont effectivement décelé des dispersions de phase beaucoup plus tôt que ce qu'on voyait auparavant. Alors je fais une petite parenthèse méthodologique pour cette étude, parce que cette étude a précisément utilisé ce que j'appellerais l'entretien d'explicitation, donc qui est une méthode phénoménologique, mais bien particulière. C'est une méthode qui a été développée par Pierre Vermersch. Et donc, je voudrais revenir rapidement là-dessus. C'est une méthode qui s'inspire de la réduction phénoménologique husserlienne, qui chez Husserl consiste en quatre étapes. Tout d'abord, une réduction, c'est-à-dire la suspension de nos croyances et de nos modes de pensée habituels, du contenu vers le mode d'émergence à la conscience. Cette réduction donne naissance à une intuition, et cette intuition permet d'identifier des invariants. Comme je disais tout à l'heure, la réduction phénoménologique nécessite un entraînement. Donc ce sont ces quatre idées que va reprendre Pierre Vermersch pour développer son entretien d'explicitation. Donc Pierre Vermersch, qui est un psychologue contemporain. Donc là, j'aborde vraiment des questions très, très pratiques, méthodologiques, mais qui sont nécessaires pour comprendre la méthode neurophénoménologique. L'entretien d'explicitation développé par Pierre Vermersch est semi-directif, c'est-à-dire qu'il consiste dans des questions très précises, mais qui laissent néanmoins... ce sont des questions précises, mais ouvertes, dans lesquelles le sujet est amené à revivre une situation passée bien identifiée, située dans l'espace et dans le temps. On s'appuie sur l'état d'évocation, qui est un état qui coïncide avec ce que Gusdorf appelait la mémoire affective ou concrète. Pour vous donner une idée plus claire, c'est un petit peu la Madeleine de Proust, c'est-à-dire qu'on utilise des sensations corporelles, que ce soit une odeur, un stimuli sonore ou visuel, pour ramener le sujet en état d'évocation d'un moment passé. Donc, par exemple, dans une expérience de laboratoire, on utilise des stimuli sensoriels très précis pour ramener le sujet à ce moment-là et le faire décrire son expérience de façon précise. Donc, le rappel est provoqué par des éléments contextuels, notamment des déclencheurs sensoriels, et non pas des questions qui appellent une mémoire plus abstraite ou sémantique. Alors, il y a quelques indices qui nous permettent de valider cet état d'évocation chez la personne qu'on interroge, notamment le décrochage du regard, le ralentissement du rythme de la parole et certains marqueurs linguistiques, comme le présent de l'indicatif ou l'usage du je. Alors, chacun pris en tant que tel n'est pas une preuve, bien entendu, de l'état d'évocation, mais ils nous donnent une indication quand ils sont pris ensemble, que la personne est bien en état d'évocation. Alors, il arrive que la personne décroche de son état d'évocation, et dans ces cas-là, il s'agit de l'amener ou la ramener en état d'évocation par le rappel de ses stimuli sensoriels et également par des questionnements de type ericksonien. Là, c'est un exemple concret qui semble a priori ne pas faire sens. Mais dans un entretien d'explicitation, ça peut relancer néanmoins le sujet qui ne sait pas quoi dire ou qui nous dit par exemple « ben là, je n'ai rien fait ». Et on peut le relancer en disant « mais quand vous ne faites rien, que faites-vous » Effectivement, ce n'est pas très rationnel comme question. Mais la plupart du temps, la personne va développer son état à ce moment-là. Alors, dans l'entretien d'explicitation, il s'agit d'amener le sujet à décrire la dimension procédurale de son action et non pas des informations satellites que je vais détailler ensuite, c'est-à-dire vraiment les actes à la fois physiques et mentaux qu'il a effectués à tel moment. Et non pas, je vais vous montrer tout de suite le schéma qui suit. Donc, on s'intéresse à la dimension procédurale, c'est-à-dire le déroulement des actions élémentaires, des actions mentales ou matérielles qu'effectue le sujet à un instant T, et non pas à ses savoirs théoriques, donc ce que vous voyez à gauche, non pas à ses buts, non pas à ses jugements sur ce qu'il est en train de faire, et non plus aux circonstances et à son environnement. Donc, il s'agit vraiment par l'entretien de l'amener, non pas à nous donner des explications, des rationalisations de son action, ses intentions à tel moment, etc., mais de savoir quels actes mentaux il effectue à cet instant-là. Donc, je reviens sur la diapo précédente. Par le biais de l'entretien d'explicitation, on peut parvenir à un haut niveau de détail des actions élémentaires que le sujet a effectuées. Pour vous donner un exemple, en formation, on explicite par exemple une tâche de mémorisation d'une grille de 9 chiffres. Et une tâche très simple de mémorisation d'une grille. Et ensuite, on va montrer que pour mémoriser cette grille, chacun peut utiliser des stratégies très différentes. Va regrouper des chiffres selon leur ressemblance, ou va commencer par la diagonale, et puis, il y a différentes stratégies dont le sujet peut prendre conscience par la suite après avoir effectué cette tâche de mémorisation, si on le ramène dans l'état dans lequel il était au moment où on lui a présenté la feuille. C'est un exemple parmi d'autres, mais ces descriptions sont toujours initiées par un stimulus sensoriel. Donc c'est ce qu'on appelle une prise de conscience des actes cognitifs pré-réfléchis, c'est-à-dire au moment où on demande de restituer par exemple les 9 chiffres, le sujet est orienté vers le rappel des 9 chiffres, pas forcément vers les stratégies qu'il a utilisées pour la mémorisation. Donc ces actes cognitifs qui étaient là pourtant pour permettre la mémorisation, il n'en a pas forcément pris une conscience pleine et entière. C'est ce que permet l'entretien d'explicitation. L'étude de Claire Petit-Mangin, donc, comme je le disais tout à l'heure, a permis d'identifier des prodromes jusqu'à 24 heures avant les crises d'épilepsie. Et l'état préictal a été identifié au niveau neuronal jusqu'à 5 heures avant la crise, donc une durée largement supérieure aux quelques minutes auxquelles on s'intéressait auparavant. Donc les descriptions phénoménologiques ont permis la prise en compte des données cérébrales bien avant la crise. Et je vous montre juste le petit schéma qui vous montre la perte de synchronie au niveau de la deuxième image et ensuite l'hypersynchronisation qui correspond au moment de la crise elle-même. Donc cette phase préictale qui était identifiée 5 minutes avant la crise elle-même a pu être reconnue plusieurs heures avant la crise. Je continue là-dessus. Donc, deux hypothèses ont été formulées à cet égard. Les symptômes négatifs, c'est-à-dire le manque d'énergie, seraient liés à cette désynchronisation progressive, et les symptômes positifs, l'hyperactivité, seraient liés à l'hypersynchronisation lors de la crise. Et la deuxième hypothèse, c'est que les contre-mesures cognitives, motrices ou sensorielles que les patients peuvent adopter fonctionnent en prévenant l'isolation des neurones du foyer épileptogène par le recrutement des neurones environnants ou par une resynchronisation globale avec les zones distantes du cerveau. Donc là, c'est pareil. Ces contre-mesures, elles ont été identifiées au niveau phénoménologique et ensuite vérifiées au niveau neuronal. Donc je vais passer rapidement, parce que ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, à une étude à laquelle j'ai participé, donc, qui se situait dans ce courant, dans cette méthodologie neurophénoménologique, dans un laboratoire de neurosciences cognitives à Montréal, et qui consistait à manipuler le sentiment de libre arbitre chez des participants aux expériences, en utilisant ce qu'on pourrait traduire par tromperie en français, la deception, et la magie. Donc j'étais dans un laboratoire qui utilisait des tours de magie pour faire croire à des sujets qu'ils n'avaient pas de sentiment de libre arbitre. Alors rapidement, et ça consistait dans l'utilisation d'une fausse machine IRM dans laquelle les sujets étaient placés. Et par un tour de magie, on leur faisait croire que la machine IRM lisait dans leurs pensées, c'est-à-dire identifiait le nombre auquel ils étaient en train de penser. Ne me demandez pas le truc, parce qu'on n'a pas voulu me le donner. En tout cas, la manipulation a plutôt bien fonctionné. Et moi, j'ai ensuite interrogé les participants pour leur faire décrire leur vécu intérieur au moment de cette expérience. Donc il y avait deux conditions. La condition « lire dans les pensées », c'est-à-dire que la machine se contente, entre guillemets, d'identifier le chiffre auquel ils sont en train de penser, et une autre condition dans laquelle la machine, soi-disant, les influence à choisir un nombre plutôt qu'un autre. Et l'idée, c'était de voir ce que ça modifiait dans leur vécu subjectif, ces deux conditions différentes. Alors, bien entendu, on n'a pas échappé au questionnaire, puisque c'est quand même la méthode la plus validée pour les chercheurs en neurosciences. Donc, il y avait à la fois les essais dans la machine, il y avait les entretiens d'explicitation et le questionnaire sur le sentiment d'agentivité qui est la méthode validée aujourd'hui pour décrire le sentiment d'agentivité et éventuellement le chiffrer, le mesurer. Alors, les difficultés rencontrées, comme vous pouvez vous en douter, il y a un certain nombre de critiques de l'introspection, notamment le caractère biaisé des descriptions subjectives, l'idée selon laquelle l'introspection elle-même modifie l'expérience. Et donc, je vous ai parlé d'autres méthodes de recueil de données qualitatives validées aujourd'hui, qui sont les questionnaires, les tests psychométriques. Et il y a également d'autres entretiens qualitatifs qui existent, que l'entretien d'explicitation, bien entendu. La critique de l'introspection se base sur le caractère biaisé des descriptions subjectives qu'on peut retrouver dans l'article de Nisbet et Wilson, dans lequel ils ont montré que la mémorisation de certaines paires de mots pouvait influencer le choix ultérieur d'une marque de détergent, par exemple. C'est un exemple parmi d'autres. Dans cet article, il montre à quel point nous ne sommes pas conscients des raisons, des véritables raisons de nos choix, et que ces choix peuvent être influencés dans une grande mesure. Donc l'idée, c'est que nos jugements, l'identification des raisons de nos actions ne serait pas le rappel des raisons réelles qui nous ont amenés à effectuer un choix, mais serait basé sur des théories causales a priori qu'on appliquerait un petit peu à l'aveugle selon certains critères. Par exemple, le fait qu'il y ait peu de candidats à la causalité, la saillance perceptuelle ou mémorielle de telles raisons dans notre esprit, leur plausibilité et l'observation passée de la relation de cause à effet. Donc, selon ces quatre critères, on irait à la raison la plus probable de notre choix, mais sans effectuer un rappel mémoriel très précis de cet instant T où nous avons effectué le choix. Alors, la critique que formulent Antoine Lutz et Evan Thompson à cette critique de l'introspection, c'est que justement la démarche phénoménologique vise précisément à évacuer toute forme d'interprétation et de théorisation de l'expérience vécue qui sont dénoncées par Nisbet et Wilson. D'ailleurs, eux-mêmes, dans leur article, reconnaissent que les études qu'ils recensent ne suffisent pas a montré que les gens ne pourraient jamais avoir une description juste des processus impliqués. Simplement que dans certains cas, effectivement, ils n'identifient pas les bonnes raisons de leur choix. Ils écrivent également que des études plus approfondies pourraient être effectuées qui consisteraient à interrompre un processus au moment même où il a lieu, à recommander au sujet de faire attention à leur processus cognitif, à leur inculquer des procédures introspectives. Donc Nisbet et Wilson eux-mêmes ne disent pas que c'est impossible, simplement que peut-être il y a une méthodologie spécifique qui peut amener les sujets à prendre conscience des raisons de leur choix. Il y a eu d'autres tentatives pour accéder à ces raisons que l'entretien d'explicitation. Il s'agit des protocoles de pensée à haute voix, c'est-à-dire des prises de décision dans lesquelles on demande au sujet d'énoncer au moment même de leur prise de décision, ce à quoi ils sont en train de penser et quelles raisons ils sont en train d'évoquer. Donc c'est ce qu'on appelle un recueil de données subjectives en temps réel et non pas a posteriori. Il se trouve que les questions générales qui sont employées dans les expériences recensées par Nisbet et Wilson impliquent elles-mêmes des théorisations. Donc c'est l'inverse de ce qu'on recherche dans l'entretien d'explicitation, c'est-à-dire que les questions employées sont de la forme « Pourquoi avez-vous effectué ce choix ?» et appellent un mode de pensée qui est d'un ordre plus abstrait. Alors, je vais peut-être passer là-dessus parce que je suis un petit peu en retard. Voilà. Ça, c'est la dernière étude qui a été effectuée par Claire Petit-Mangin, Anne Rémilieu, sur une expérience faite par une équipe suédoise sur les erreurs d'identification des raisons de son choix et de la détection d'une manipulation. C'est-à-dire que là, les sujets étaient confrontés à des images, à deux images de visage. On leur demandait de choisir le visage qu'ils préféraient. Et ensuite, par un tour de magie, on leur représentait le visage qu'ils n'avaient pas choisi. On leur demandait « Pourquoi avez-vous choisi ce visage ?» Dans ces cas-là, nombreux étaient les sujets qui rationalisaient le choix qu'ils n'avaient pas fait. Donc ils trouvaient des raisons très détaillées pour dire « Bah oui, j'ai choisi ce visage parce que parce qu'elle sourit, parce qu'elle a les yeux bleus, parce que etc. » Donc il y a une cécité au choix qui se retrouvait dans 80% des cas. Claire Petit-Mangin et Anne Rémilieu ont répliqué cette expérience, cette fois-ci en ajoutant un entretien d'explicitation après le choix, mais avant la représentation de l'image. Et cette fois-ci, le taux s'inverse, c'est-à-dire que dans 80% des cas, les personnes qui ont été interrogées, qui ont eu un entretien d'explicitation, finissent par découvrir la manipulation beaucoup plus facilement parce que elles ont été amenées à expliciter les raisons sensorielles de leur choix. Donc cette expérience montre que les processus de décision, bien qu'habituellement opaques, peuvent faire l'objet d'une prise de conscience, moyennant une redirection attentionnelle qui, en l'occurrence, était permise par l'entretien d'explicitation. Donc je passe sur ce schéma. Bien entendu, la prise de conscience des processus pré-réfléchis est une sorte de création, comme le dit Pierre Vermerch, c'est-à-dire que on transforme un matériau vers un autre, du vécu vers le représenté. Donc, bien entendu, ces processus pré-réfléchis ne sont pas au cœur de la conscience à l'instant T, mais sont mis en lumière par la suite. Donc, ce n'est pas exactement la même chose, mais création ne veut pas dire invention ou affabulation. C'est-à-dire que les descriptions obtenues peuvent faire référence à des opérations cognitives préexistantes à la prise de conscience, mais non encore conscientisées. Alors le problème auquel on se confronte aussi, c'est que l'état d'évocation utilisé par l'entretien d'explicitation est un état dans lequel on peut induire des fausses croyances, des faux souvenirs. Donc, à la fois, il faut utiliser cet état pour que la personne revienne sensoriellement à l'instant précédent. En même temps, le risque, c'est d'utiliser des questions qui induisent un contenu. C'est pour ça que l'entretien d'explicitation est très attentif à ne pas à utiliser des questions dépourvues de contenu, des reformulations qui font simplement écho à ce que vient de dire le sujet en utilisant les mêmes termes. Donc il y a, dans cette démarche méthodologique, une explicitation des effets perlocutoires des questions posées, c'est-à-dire une explicitation du processus d'explicitation lui-même. Et je termine rapidement par les critères de validité de cette technique, c'est-à-dire, là on ne fait pas référence à une notion de vérité comme représentation, mais à la cohérence des données ensemble. Donc on utilise à la fois les retranscriptions des entrevues, les données comportementales, avec des enregistrements sonores et vidéos, pour être sûr que ces différents types de données sont cohérents entre eux. Donc les enjeux et les pistes pour le développement futur de cette démarche, c'est notamment que les protocoles expérimentaux, notamment en neurosciences cognitives aujourd'hui, ne peuvent contrôler de l'extérieur les variables qui sont liées à l'état émotionnel, attentionnel ou au type de stratégie cognitive utilisée par les sujets. La seule façon de les prendre en compte, c'est de recueillir des descriptions fines de l'expérience vécue. Il faut donc développer nos connaissances phénoménologiques, notamment dans le domaine thérapeutique, et encore plus dans le domaine thérapeutique. Et ça reprend un petit peu l'idée de Bachelard, comme quoi il faut faire une psychanalyse de la démarche scientifique, en tout cas identifier les présupposés théoriques qui président à la conception même des protocoles expérimentaux. Et il s'agit d'effectuer un travail conceptuel épistémologique sur la notion de contrainte mutuelle, mais également empirique sur le terrain. Voilà, et puis je conclurai sur la démarche neurophénoménologique appliquée à la question du libre arbitre, puisque là on en a parlé, mais plus précisément, en tout cas, j'ai essayé d'appliquer cette méthodologie dans mon ouvrage Un nouveau libre arbitre, pour essayer notamment de montrer en quoi les expériences de Benjamin Libet, les expériences de Daniel Wegener ne remettaient pas en question la notion de libre arbitre telle que je l'ai conçue en tout cas, et de montrer que cette démarche neurophénoménologique pouvait nous permettre d'obtenir une description plus empirique de ce que constitue cette notion de libre arbitre, donc sans rentrer forcément dans des perspectives métaphysiques, mais de voir au sein même du vécu ce qu'il était possible de comprendre et d'effectuer pour qu'une prise de conscience finalement permette une meilleure appréhension des raisons réelles de nos choix au vu de ces résultats expérimentaux. Voilà.